Germaine de Staël, Delphine. Seconde partie, lettres 7 à 10 comprises. Lettre 7. Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Bellerive, ce 8 août. Ne puis-je donc faire un pas qui ne renouvelle plus cruellement encore les chagrins que je ressens? Pourquoi m'a-t-on conduite chez Madame de Lébancey? Elle est heureuse par le mariage. Elle l'est parce que son mari a su braver l'opinion, parce qu'il a méprisé les vains discours du monde, et qu'à cet égard il en est tout l'opposé de Léonce. Madame de Lébancey est heureuse, et je l'aurais été bien plus qu'elle, car son caractère ne la met point entièrement au-dessus du blâme. Son cœur est bien loin d'aimer comme le mien, et quel homme, en effet, pourrait inspirer à personne ce que j'éprouve pour Léonce. Madame de Vernon vint me prendre hier pour aller à Cernay comme nous en étions convenus. En arrivant, nous apprîmes que Monsieur de Lébancey était absent. Madame de Lébancey, en nous voyant, fut émue. Elle cherchait à le cacher, mais il était aisé de démêler cependant qu'une visite de ses parents était un événement pour elle dans la proscription sociale où elle vivait. Vous avez connu Madame de Lébancey à Montpellier. Elle a près de 30 ans. Sa figure, calme et régulière, est toujours restée la même. Nous parlâmes quelque temps sur tous les sujets convenus dans le monde, pour éviter de se connaître et de se pénétrer. Cette manière de causer n'intéressait point une personne qui, comme Madame de Lébancey, passe sa vie dans la retraite. Néanmoins, elle craignait de s'approcher la première d'aucun sujet qui pût nous engager à lui parler de sa situation. J'essayai de nommer quelques personnes de sa connaissance. Il me parut, par ce qu'elle m'en dit, qu'elle ne les voyait plus. Je remarquai bien qu'elle souffrait d'en avoir été abandonnée, mais je ne m'en aperçus qu'à la fierté même avec laquelle elle repoussait tout ce qui pouvait ressembler à une tentative pour se justifier, ou à des efforts pour se rapprocher du monde. Elle veut briser ce qu'elle pourrait conserver encore de lien avec la société, non par indifférence, mais pour n'avoir plus aucune communication avec ce qui lui fait mal. Madame de Lébancey a pris tellement l'habitude de se contenir en présence des autres qu'il était difficile de l'amener à nous parler avec confiance. Cependant, comme Madame de Vernon lui faisait quelques excuses polies sur l'absence de sa fille, il lui échappa de dire « Vous avez la bonté de me cacher, madame, la véritable raison de cette absence. Madame de Mondeville ne veut pas me voir depuis que j'ai épousé Monsieur de Lébancey. » Madame de Vernon sourit doucement, je rougis, et Madame de Lébancey continua. « Vous, madame, dit-elle en s'adressant à Madame de Vernon, vous qui m'avez connue dans mon enfance, et qui avez été l'ami de ma famille, je vous remercie d'être venu me trouver dans cette circonstance. Je remercie Madame d'Albémare de vous avoir accompagnée ici. Je ne cherche pas le monde. Je ne veux pas lui donner le droit de troubler mon bonheur intérieur. Mais une marque de bienveillance m'est singulièrement précieuse et je sais la sentir. » Ses yeux se remplirent alors de larmes. Et, se levant pour nous les dérober, elle nous mena voir son jardin et le reste de sa maison. L'un et l'autre étaient arrangés avec soin, goût et simplicité. C'était un établissement pour la vie. Rien n'y était négligé. Tout rappelait le temps qu'on avait déjà passé dans cette demeure, et celui plus long encore qu'on se proposait d'y rester. Madame de Lébancey me parut une femme d'un esprit sage, sans rien de brillant, éclairée, raisonnable plutôt qu'exaltée. Je ne concevais pas bien comment, avec un tel caractère, sa conduite avait été celle d'une personne passionnée, et j'avais un grand désir de la prendre d'elle. Mais Madame de Vernon ne m'aidait point à l'y engager. Elle était triste et rêveuse, et ne se mêlait point à la conversation. En parcourant les jardins de Madame de Lébancé, je découvris, dans un bois retiré, un autel élevé sur quelques marches de gazon. J'y lus ces mots. À 6 ans de bonheur, Élisabeth et Henri. Et plus bas, l'amour et le courage réunissent toujours les cœurs qui s'aiment. Ces paroles me frappèrent. Il me sembla qu'elles faisaient un douloureux contraste avec ma destinée, et je restais tristement absorbée devant ce monument du bonheur. Madame de Lébancé s'approcha de moi, et, troublée comme je l'étais, je m'écriai involontairement. « Ah, ne m'apprendrez-vous donc pas ce que vous avez fait pour être heureuse ? Hélas, je ne croyais plus que personne le fût sur terre. » Madame de Lébancé, touchée sans doute de mon attendrissement, me dit avec un mouvement très aimable « Vous saurez, madame, puisque vous le désirez, tout ce qui concerne mon sort. Je ne puis être insensible à l'espoir de captiver votre estime. Un sentiment de timidité que vous trouverez naturel me rendait pénible de lui parler longtemps de moi. J'aurais plus de confiance en écrivant. » Madame de Vernon nous rejoignit alors et fut témoin de l'expression de ma reconnaissance. Madame de Lébancé nous pria toutes les deux de rester chez elle quelques jours. Je m'y refusai pour cette fois, n'en ayant pas prévenu Thérèse, mais nous promîmes de revenir. Je désirais revoir Madame de Lébancé, et j'aurais craint de la blesser en la refusant. On a de la susceptibilité dans sa situation, et cette susceptibilité, les âmes sensibles doivent l'aménager, car elle donne aux plus petites choses une grande influence sur le bonheur. En revenant avec Madame de Vernon, je fus encore plus frappée que je ne l'avais été le matin de sa pâleur et de sa tristesse. Je lui demandai à quelle heure elle s'était couchée la nuit dernière. « À 5 heures du matin, me répondit-elle. « Vous avez donc joué ?»« Oui. »« Mon Dieu, repris-je, comment pouvez-vous vous abandonner à ce goût funeste ? Vous y aviez renoncé depuis si longtemps. » « Je m'ennuie dans la vie, me répondit-elle. Je manque d'intérêt, de mouvement, et mon repos n'a point de charme. Le jeu m'anime sans m'émouvoir douloureusement. Il me distrait de toute autre idée, et je consume ainsi quelques heures sans les sentir. Est-ce à vous, lui dis-je, de tenir ce langage, votre esprit ? Mon esprit, interrompit-elle, vous savez bien que je n'en ai que pour causer, et point du tout pour lire, ni pour réfléchir. J'ai été élevée comme cela. Je pense dans le monde. Seule, je m'ennuie ou je souffre. Mais ne savez-vous donc pas, lui dis-je, jouir des sentiments que vous inspirez ? Vous voyez quelle a été la conduite de ma fille pour moi, me répondit-elle, de ma fille à qui j'avais fait tant de sacrifices. Peut-être qu'en voulant la servir, je me suis rendue moins digne de votre amitié. Vous me l'accordez encore, mais votre confiance en moi n'est plus la même. Tout est donc altéré pour moi. Néanmoins, les moments que je passe avec vous sont encore les plus agréables de tous. Ainsi, ne parlons pas de mes peines dans le seul instant où je les oublie. » Alors, elle ramena la conversation sur Madame de Lébancé, et comme elle a tout à la fois de la grâce et de la dignité dans les manières, il est impossible de persister à lui parler d'un sujet qu'elle évite, ni de résister au charme de ce qu'elle dit. Elle fut si parfaitement aimable pendant la route qu'elle suspendit un moment l'amertume de mes chagrins. La finesse de son esprit, la délicatesse de ses expressions, un air de douceur et de négligence qui obtient tout sans rien demander. Ce talent de mettre son âme tellement en harmonie avec la vôtre que vous croyez sentir avec elle, en même temps qu'elle, tout ce que son esprit développe en vous. Ces avantages, qui n'appartiennent qu'à elle, ne peuvent jamais perdre entièrement leur ascendant. Il me semble impossible, quand je vois Madame de Vernon, de ne pas me confier à son amitié. Et cependant, dès que je suis loin d'elle, le doute me ressaisit de nouveau. Que le cœur humain est bizarre. On a des sentiments que l'on cherche à se justifier parce qu'on a toujours en soi quelque chose qui les blâme. Et l'on cède à de certains agréments, à de certains esprits, avec une sorte de crainte qui ajoute peut-être encore à l'attrait qu'ils inspirent et qu'on voudrait combattre. Ce matin, comme je me levais, ayant passé presque toute la nuit à réfléchir sur l'heureux et doux asile de Cernay, je reçus la lettre que Madame de Lébancé m'avait promis de m'écrire. La voici. Jugez, Louise, de ce que j'ai dû souffrir en la lisant. Madame de Lébancé à Madame d'Albémare. Parmi les sacrifices qui me sont imposés, madame, le seul que j'aurais de la peine à supporter, ce serait de vous avoir connue et de ne pas chercher à vous prouver que je ne mérite point la justice dont on a voulu me rendre victime. Mettez quelque prix à mes efforts pour obtenir votre approbation. Car jusqu'à ce jour, satisfaite de mon bonheur et fière de mon choix, je n'ai pas fait une démarche pour expliquer ma conduite. En prenant la résolution de faire divorce avec mon premier mari et d'épouser quelques années après M. de Lébancé, j'ai parfaitement senti que je me perdais dans le monde et j'ai formé dès cet instant le dessein de n'y jamais reparaître. Lutter contre l'opinion au milieu de la société est le plus grand supplice dont je puisse me faire l'idée. Il faut être ou bien audacieuse ou bien humble pour s'y exposer. Je n'étais ni l'une ni l'autre, et je compris très vite qu'une femme qui ne se soumet pas aux préjugés reçus doit vivre dans la retraite pour conserver son repos et sa dignité. Mais il y a une grande différence entre ce qui est mal en soi et ce qui ne l'est qu'aux yeux des autres. La solitude aigrit les remords de la conscience, tandis qu'elle console de l'injustice des hommes. Si j'avais été très aimable, très remarquable par la grâce et l'esprit de société, le sacrifice de mes succès m'eût peut-être été pénible. Mais j'étais une femme ordinaire dans la conversation, quoique j'eusse une manière de sentir très forte et très profonde. Je pouvais donc renoncer au monde sans craindre ces regrets continuels de l'amour-propre qui troublent tôt ou tard les affections les plus tendres. Je n'avais point à redouter, non plus, le réveil des passions exaltées. J'ai de la raison, quoique ma conduite ne soit pas d'accord avec ce qu'on appelle communément ainsi. C'est d'après les réflexions sages et calmes que j'ai pris un parti qui sort de toutes les règles communes. Et rien de ce qui m'a décidé ne peut changer, car c'est d'après mon caractère et celui de Henri que je me suis déterminée. Les événements de ma vie sont très simples et peu multipliés. La suite de mes impressions est le seul intérêt de mon histoire. Un Hollandais, monsieur de T, avait rapporté des colonies une très grande fortune. Il passa quelque temps à Montpellier pour rétablir sa santé. Il se prit, je ne sais pourquoi, d'une passion très vive pour moi, me demanda, m'obtint, et m'emmena dans son pays où je ne connaissais personne. Il a fallu, à 18 ans, rompre avec tous les souvenirs de ma vie. Je voulais m'attacher à mon mari. Il y avait dans nos esprits et dans nos caractères une opposition continuelle. Il était amoureux de moi parce qu'il me trouvait jolie. Car d'ailleurs, il semblait qu'il aurait dû me haïr. Cette espèce d'attachement que je lui inspirais ajoutait donc encore à mon malheur, car si ma figure ne lui avait pas été agréable, il se serait éloigné de moi, et je n'aurais pas senti à chaque instant de la journée les défauts qui me le rendaient insupportable. Avarice, dureté, entêtement. Toutes les bornes de l'esprit et de l'âme se trouvaient en lui. Je me brisais sans cesse contre elle. J'essayais sans cesse un plan quelconque de bonheur, et tout s'échouait contre son active et revécue médiocrité. Il avait fait sa fortune en Amérique, en exerçant sur ses malheureux esclaves un despotisme tyrannique. Il y avait contracté l'habitude de se croire supérieur à tout ce qui l'entourait. Les sentiments nobles, les idées élevées, lui paraissaient de l'affectation ou de la niaiserie. Exerciez-vous une vertu généreuse à vos dépens, il se moquait de vous. L'opposiez-vous à ses désirs, non seulement il s'irritait contre vous, mais il cherchait à dégrader vos motifs. Il voulait qu'il n'y eût qu'une seule chose de considérée dans le monde, l'art de s'enrichir, et le talent de faire prospérer en tout genre ses propres intérêts. Enfin, je l'ai doublement senti dans le temps de mon malheur et dans les années heureuses qui ont suivi, l'étendue des lumières, le caractère et les idées que l'on nomme philosophiques sont aussi nécessaires au charme, à l'indépendance et à la douceur de la vie privée qu'elles peuvent l'être à l'éclat de toute autre carrière. Il fallait, pour bien vivre avec M. de T, que je renonçasse à tout ce que j'avais de bon en moi. Je n'aurais pu me créer un rapport avec lui qu'en me livrant à un mauvais sentiment. Quoiqu'il ne cherchât point à plaire, il était très inquiet de ce qu'on disait de lui. Il n'avait ni l'indifférence sur les jugements des hommes que la philosophie peut inspirer, ni les égards pour l'opinion qu'aurait dû lui suggérer son désir de la captiver. Il voulait obtenir ce qu'il était résolu de ne pas mériter. Et cette manière d'être lui donnait de la fausseté dans ses rapports avec les étrangers et de la violence dans ses relations domestiques. Il songeait du matin au soir à l'accroissement de sa fortune, et je ne pouvais pas même me représenter cet accroissement comme de nouvelles jouissances, car j'étais assurée qu'une augmentation de richesse lui faisait toujours naître l'idée d'une diminution de dépenses. Et je ne disputais sur rien avec lui, dans la crainte de prolonger l'entretien et de sentir nos âmes de trop près dans la vivacité de la querelle. L'exercice d'aucune vertu ne m'était permis. Tout mon temps était pris par le despotisme et l'oisiveté de mon mari. Quelquefois, les idées religieuses venaient à mon secours. Néanmoins, combien elles ont acquis plus d'influence sur moi depuis que je suis heureuse. Des souffrances arides et continuelles, une liaison de toutes les heures avec un être indigne de moi, gâte le caractère au lieu de le perfectionner. L'âme qui n'a jamais connu le bonheur ne peut être parfaitement bonne et douce. Si je conserve encore quelques sécheresses dans le caractère, c'est à ces années de douleur que je le dois. Oui, je ne crains pas de le dire. S'il était une circonstance qui pût nous permettre une plainte contre notre Créateur, ce serait du sein d'un mariage mal assorti que cette plainte échapperait. C'est sur le seuil de la maison habitée par ses épouses infortunées qu'il faudrait bâtir ces belles paroles de Dante que proscrivent l'espérance. Non, Dieu ne nous a point condamnés à supporter un tel malheur. Le vice s'y soumet en apparence et s'en affranchit chaque jour. La vertu doit le briser quand elle se sent incapable de renoncer pour jamais au bonheur d'aimer, à ce bonheur dont le sacrifice coûte bien plus à notre nature que le mépris de la mort. Je ne vous développerai point ici mon opinion sur le divorce. Quand M. de Lébancey sera assez heureux pour vous connaître, madame, il vous dira mieux que personne les raisonnements qui m'ont convaincue. Je ne veux vous peindre que les sentiments qui ont décidé de mon sort. Un jour, à La Haye, chez l'ambassadeur de France, on m'annonça qu'un jeune Français était arrivé le matin et devait nous être présenté le soir même. Une femme me dit que ce Français passait pour sauvage, savant et philosophe, que sais-je, tout ce que les Français sont rarement à 25 ans. Elle ajouta qu'il avait fait ses études à Cambridge et que sans doute il s'était gâté par les manières anglaises. Mais, comme il n'existe pas, selon mon opinion, de plus noble caractère que celui des Anglais, je ne me sentais point prévenu contre l'homme qui leur ressemblait. Je demandai son nom, elle me nomma Henri de Lébancey, gentilhomme protestant du Languedoc. Sa famille était alliée de la mienne. Je ne l'avais jamais vu, mais il connaissait le séjour de mon enfance. Il était français, il avait au moins entendu parler de mes parents. Cette idée, dans l'éloignement où je vivais, de tout ce qui m'avait été cher, cette idée m'émut profondément. Monsieur de Lébancey entra chez l'ambassadeur avec plusieurs autres jeunes gens. Je reconnus à l'instant l'image que je m'en étais faite. Il avait l'habillement et l'extérieur d'un Anglais. Rien de remarquable dans la figure, que de l'élégance, de la noblesse et une expression très spirituelle. Je ne fus point frappé en le voyant, mais plus je causais avec lui, plus j'admirais l'étendue et la force de son esprit, et plus je sentis qu'aucun caractère ne convenait mieux au mien. Depuis ce jour jusqu'à présent, depuis 6 années, loin de me reprocher d'aimer Henri de Lebancey, il m'a semblé toujours que si je l'éloignais de moi, je repousserais une faveur spéciale de la Providence, le signe le plus manifeste de sa protection, l'ami qui me rend l'usage de mes qualités naturelles et me conduit dans la route de la morale, de l'ordre et du bonheur. Vous avez peut-être su les cruels traitements que M. de T. me fit éprouver quand il sut que j'aimais M. de Lébancey. Je n'avais point d'enfant, je demandais le divorce selon les lois de Hollande. M. de T., avant d'y consentir, voulut exiger de moi une renonciation absolue à toute ma fortune. Quand je la refusai, il m'enferma dans sa terre et me menaça de la mort. Son amour s'était changé en haine, et toute sa conduite était alors soumise à sa passion dominante, à l'avidité. Henri me sauva par son courage, exposa 1000 fois sa vie pour me délivrer, et me ramena enfin en France, après 2 années, pendant lesquelles il m'avait rendu tous les services que l'amour et la générosité peuvent inspirer. Mon divorce fut prononcé. Je ne vous fatiguerai point des peines qu'il m'en coûta pour l'obtenir. C'est Henri que je veux vous faire connaître. Toute ma destinée est en lui. Je vais peut-être vous étonner, jeune et charmante Delphine, mais ce n'est point la passion de l'amour, telle qu'on peut la ressentir dans l'effervescence de la jeunesse, qui m'a décidée à choisir Henri pour le dépositaire de mon sort. Il y a de la raison dans mon sentiment pour lui, de cette raison qui calcule l'avenir autant que le présent, et se rend compte des qualités et des défauts qui peuvent fonder une liaison durable. On parle beaucoup des folies que l'amour fait commettre. Je trouve plus de vraie sensibilité dans la sagesse du cœur que dans son égarement. Mais toute cette sagesse consiste à n'aimer, quand on est jeune, que celui qui vous sera cher également dans tous les âges de la vie. Quel doux précepte de morale et de bonheur! Et la morale et le bonheur sont inséparables quand les combinaisons factices de la société ne viennent pas mêler leur poison à la vie naturelle. Henri de Lébancey est certainement l'homme le plus remarquable par l'esprit qu'il soit possible de rencontrer. Une éducation sérieuse et forte lui a donné sur tous les objets philosophiques des connaissances infinies, et une imagination très vive lui inspire des idées nouvelles sur tous les traits qu'il a recueillis. Il se plaît à causer avec moi, d'autant plus qu'une sorte de timidité sauvage et fière le rend souvent taciturne dans le monde. Comme son esprit est animé et son caractère assez sérieux, plus le cercle se resserre, plus il déploie dans la conversation d'agréments et de ressources. Et seul avec moi, il est plus aimable encore qu'il ne s'est jamais montré aux autres. Il réserve pour moi des trésors de pensée et de grâce, tandis que le commun des hommes s'exalte pour les auditeurs, s'enflamme par l'amour-propre et se refroidit dans l'intimité. Tous ceux qui aiment la solitude ou que des circonstances sont appelés à y vivre vous diront, de quel prix est, dans les jouissances habituelles, ce besoin de communiquer ses idées, de développer ses sentiments, ce goût de conversation qui jette de l'intérêt dans une vie où le calme s'achète d'ordinaire aux dépens de la variété. Et ne croyez point que cet empressement de Henri pour mon entretien naisse seulement de son amour pour moi. Ma raison m'aurait dit encore qu'il ne faut jamais compter sur les qualités que l'amour donne, ou se croire préservé des défauts dont il corrige. Ce qui me rend certaine de mon bonheur avec Henri, c'est que je connais parfaitement son caractère tel qu'il est, indépendamment de l'affection que je lui inspire, et que je suis la seule personne au monde avec laquelle il ait entièrement développé ses vertus comme ses défauts. Henri possède un genre d'agrément et de gaieté qui ne peut se développer que dans la familiarité de sentiments intimes. Ce n'est point une grâce de parure, mais une grâce d'originalité dont la parfaite aisance augmente beaucoup le charme. Quand l'intimité est arrivée à ce point qui fait trouver du charme dans des jeux d'enfants, dans une plaisanterie 20 fois répétée, dans de petits détails sans fin auxquels personne que vous deux ne pourrait jamais rien comprendre, 1000 liens sont enlacés autour du cœur, et il suffirait d'un mot, d'un signe, de l'allusion la plus légère à des souvenirs si doux pour rappeler ce qu'on aime du bout du monde. J'ai de la disposition à la jalousie. Henri ne m'en fait jamais éprouver le moindre mouvement. Je sais que seul je le connais, que seul je l'entends, et qu'il jouit d'être senti, d'être estimé par moi, sans avoir jamais besoin de mettre en dehors ce qu'il éprouve. Il a des opinions très indépendantes, assez de mépris pour les hommes en général, quoiqu'il ait beaucoup de bienveillance pour chacun d'eux en particulier. On a dit assez de mal de lui, surtout depuis que, dans les querelles politiques, il s'est montré partisan de la Révolution. Il tient cette injustice pour acceptée, et rien au monde ne pourrait le contraindre à une justification, pas même une démonstration de ce qu'il est. Dès que cette démonstration peut être demandée, elle lui devient impossible. Le parfait naturel de son caractère m'est encore un garant de sa fidélité. S'il formait une nouvelle liaison, il serait obligé d'entrer dans des explications sur lui-même, sur ses défauts, sur ses qualités, dont sa conduite envers moi le dispense. Il m'a parlé par ses actions, et c'est de cette manière qu'un caractère fier et souvent calomnié aime à se faire connaître. Sous des formes froides et quelquefois sévères, il est plus accessible que personne à la pitié. Il cache ce secret de peur qu'on en abuse. Mais moi, je le sais, je m'y confie. Sans doute, je serais bien malheureuse s'il n'était retenu près de moi que par la crainte de m'affliger en s'éloignant. Mais tout en jouissant de l'amour que je lui inspire, je songe avec bonheur que 2 vertus me répondent de son cœur, la vérité et la bonté. Nous nous faisons illusion. Mais quand on observe la société, il est aisé de voir que les hommes ont bien peu besoin des femmes. Tant d'intérêts divers animent leur vie, que ce n'est pas assez du goût le plus vif, de l'attrait le plus tendre, pour répondre de la durée d'une liaison. Il faut encore que des principes et des qualités invariables préservent l'esprit de se livrer à une affection nouvelle, arrêtent les caprices de l'imagination, et garantissent le cœur longtemps avant le combat. Car s'il y avait un combat, le triomphe même ne serait plus du bonheur. Que de qualités cependant, que de singularités même ne faut-il pas trouver réunies dans le caractère d'un homme pour avoir la certitude complète de son affection constante et dévouée. Et sans cette certitude, combien le parti que j'ai adopté serait insensé. Car lorsqu'on prend une résolution contraire à l'opinion générale, rien ne vous soutient que vous-même. Vous avez contracté l'engagement d'être heureuse, et si jamais vous laissiez échapper quelques regrets, le public et vos amis serez prêts à les repousser au fond de votre cœur comme dans leur seul asile. Je ne le dissimulerai point, les opinions philosophiques de Henri, la force de son caractère, son indifférence absolue pour la manière de penser des autres, quand elle n'est pas la sienne, tous ses appuis m'ont été bien nécessaires pour lutter contre la défaveur du monde. Un homme s'affranchit aisément de tout ce qui n'est pas sa conscience, et s'il possède des talents vraiment distingués, c'est en obtenant de la gloire qu'il cherche à captiver l'opinion publique. La gloire commence à une grande distance du cercle passager de nos relations particulières et n'y pénètre même qu'à la longue. M. de Lébancé, par un contraste singulier mais naturel, est parfaitement indifférent à l'opinion de ce qu'on appelle la société, et très ambitieux d'atteindre un jour à l'approbation du monde éclairé. Moi, qui ne puis être connu qu'autour de moi, je ne nie point que je ne sois affligé quelquefois d'être généralement blâmé. Mais, comme ce blâme ne produit pas sur Henri la plus légère impression, comme je suis assuré qu'il y est tout à fait indifférent, je me distrais facilement de ma peine. L'on est inconsolable dans un sentiment vrai que de la douleur de ce qu'on aime. On finit toujours par oublier la sienne propre. J'étais convaincu que la morale et la religion, bien entendu, ne me défendaient point d'épouser Henri, puisque je ne troublais par cette résolution la destinée de personne, et que je n'avais à rendre compte qu'à Dieu de mon bonheur. Devais-je donc, quand le ciel m'avait fait rencontrer le seul caractère qui pût s'identifier avec le mien, le seul homme qui pût tirer de mes qualités et de mes défauts des sources de félicité pour tous les deux, devais-je sacrifier ce sort unique au mal que pouvaient dire de moi de froids amis qui m'ont bientôt oublié, des indifférents qui savent à peine mon nom? Il me conseillait de renoncer au seul être qui m'aime, au seul être qui me protège dans ce monde, tout en se préparant à me refuser du secours si j'en avais besoin, si, redevenu isolé par déférence pour leurs avis, j'allais leur demander l'un des milliers de services qu'Henri me rendrait sans les compter. Non, ce n'est point à l'opinion des hommes, c'est à la vertu seule qu'on peut immoler les affections du cœur. Entre Dieu et l'amour, je ne reconnais d'autre médiateur que la conscience. De quoi vous menace donc la société? De ne plus vous voir? La punition n'est pas égale à la sévérité des lois qu'elle impose. Cependant, je le répète à vous, madame, qui êtes encore dans les premières années de la jeunesse, mon exemple ne doit entraîner personne à m'imiter. C'est un grand hasard à courir pour une femme que de braver l'opinion. Il faut, pour l'oser, se sentir, suivant la comparaison d'un poète, un triple airain autour du cœur, se rendre inaccessible aux traits de la calomnie, et concentrer en soi-même toute la chaleur de ses sentiments. Il faut avoir la force de renoncer au monde, posséder les ressources qui permettent de s'en passer, et ne pas être doué cependant d'un esprit ou d'une beauté rare qui ferait regretter les succès pour toujours perdus. Enfin, il faut trouver dans l'objet de nos sacrifices la source toujours vive des jouissances variées du cœur et de la raison, à travers la vie appuyée l'un sur l'autre, en s'aimant et faisant le bien. Vous connaissez maintenant ma situation, madame. Vous aurez aperçu que mon bonheur n'est pas sans mélange. Mais le bonheur parfait ne peut jamais être le partage d'une femme à qui l'erreur de ses parents ou la sienne propre ont fait contracter un mauvais mariage. Si l'enfant que je porte dans mon sein est une fille, ah, combien je veillerai sur son choix, combien je lui répéterai que, pour les femmes, toutes les années de la vie dépendent d'un jour, et que d'un seul acte de leur volonté dérivent toutes les peines ou toutes les jouissances de leur destinée. Quand des personnes que j'estime condamnent la résolution que j'ai prise, quand j'éprouve la faiblesse ou la dureté de mes amis, Quelquefois, je ne retrouve plus, même dans la solitude, le repos que j'espérais. Et le souvenir du monde s'y introduit pour la troubler. Mais dans les moments où je suis le plus abattu, un beau jour, avec Henri, relève mon âme. Nous sommes jeunes, encore, l'un et l'autre, et néanmoins, nous parlons souvent ensemble de la mort. Nous cherchons dans nos bois quelques retraites paisibles pour y déposer nos cendres. Là, nous serons unis, sans que les générations successives qui fouleront notre tombe nous reprochent encore notre affection mutuelle. Nous nous entretenons souvent sur les idées religieuses. Nous interrogeons le ciel par des regards d'amour. Nos âmes, plus fortes de leur intimité, essaient de pénétrer à deux dans les mystères éternels. Nous existons par nous-mêmes, sans aucun appui, sans aucun secours des hommes. Monsieur de Lébancey, je l'espère, est plus heureux que moi, car il est beaucoup plus indépendant des autres. Quand les chagrins causés par l'opinion me font souffrir, je me dis que j'aurais été trop heureuse si les hommes avaient joint leur suffrage à ma félicité intérieure. Si j'avais vu, pour ainsi dire, mon bonheur se répéter de mille manières dans leurs regards approbateurs. L'imparfaite destinée jette toujours des regrets à travers les plus pures jouissances. La peine que j'éprouve, la seule de ma vie, me garantit peut-être la possession de tout ce qui m'est cher. Elle m'acquitte envers la douleur qui ne veut pas qu'on l'oublie. Et j'obtiendrai peut-être en compensation le seul bien que je demande maintenant au ciel. Mourir avant Henri, recevoir ses soins à ma dernière heure, entendre sa douce voix me remercier de l'avoir rendu heureux, de l'avoir préféré à tout sur cette terre. Alors, j'aurai vécu de la vraie destinée pour laquelle les femmes sont faites, aimer, encore aimer, et rendre enfin au Dieu qui nous l'a donné une âme que les affections sensibles auront seules occupée. Élise de Lébancey. Ah, ma chère Louise, maintenant que vous avez fini cette lettre, avez-vous donné quelques larmes au regret qu'elle a ranimé dans mon cœur? Avez-vous pressenti toutes les réflexions amères qu'elle m'a suggérées? Que d'obstacles, monsieur de Lébancey, n'a-t-il pas eu à vaincre pour épouser celle qu'il aimait? Et Léonce, comme aisément il y a renoncé. C'est madame de Lébancey qui pense à la défaveur de l'opinion. Mais son mari ne s'en est pas occupé un seul instant. Il ne dépend que de ses propres affections. Il ne se soumet qu'à ce qu'il aime. Et Léonce, ne croyez pas cependant que son caractère ait moins de force, qu'il soit en rien inférieur à personne. Mais il a manqué d'amour. Je veux en vain me faire illusion. Tout le mal est là. Hélas, sans le savoir, madame de Lébancey condamne à chaque ligne la conduite de Léonce. La douleur que m'a causée cette lettre ne sera point inutile. Si je le revoyais, je pourrais lui parler. Je serais calme et fière en sa présence. Lettre 8. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Louise, qu'ai-je éprouvé? Que m'a-t-il dit? Je n'en sais rien. Je l'ai vu, mon âme est bouleversée. Je croyais entrevoir une espérance. Madame de Vernon me l'a presque entièrement ravie. Pouvez-vous m'éclairer sur mon sort? Ah, je ne suis plus capable de rien juger par moi-même. Je reçus hier à Paris, où j'étais venue pour reconduire madame de Vernon, une lettre vraiment touchante de madame d'Hervin. Dans cette lettre, elle me conjurait d'aller chez un peintre au Louvre, où le portrait de monsieur de Serbellin était encore, et de le lui apporter pour le considérer une dernière fois. Elle me disait, « Je me suis persuadée la nuit passée que ses traits étaient effacés de mon souvenir. Je les cherchais comme à travers des nuages qui se plaçaient toujours entre ma mémoire et moi. Je le sais, c'est une chimère insensée, mais il faut que j'essaie de me calmer avant le dernier sacrifice. Ces condescendances que j'ai encore pour mes faiblesses ne vous compromettront plus longtemps, ma chère amie. Ma résolution est prise, et tout ce qui semble m'en écarter m'y conduit. » Je n'hésitais pas à donner à Thérèse la consolation qu'elle désirait, et Madame de Vernon, à qui j'en parlais, fut entièrement de mon avis. J'allai donc ce matin au Louvre, mais avant d'arriver à l'atelier du peintre de M. de Serbellane, je m'arrêtai dans la galerie des tableaux. Il y en avait un qu'un jeune artiste venait de terminer, le Marcus Sextus de Guérin. Il me frappa tellement qu'à l'instant où je le regardais, je me sentis baigné de larmes. Vous savez que de tous les arts, c'est à la peinture que je suis le moins sensible. Mais ce tableau produisit sur moi l'impression vive et pénétrante que, jusqu'alors, je n'avais jamais éprouvée que par la poésie ou la musique. Il représente Marcus Sextus, revenant à Rome après les proscriptions de Sylla. En rentrant dans sa maison, il retrouve sa femme étendue sans vie sur son lit. Sa jeune fille au désespoir se prosterne à ses pieds. Marcus tient la main pâle et livide de sa femme dans la sienne. Il ne regarde pas encore son visage. Il a peur de ce qu'il va souffrir. Ses cheveux se hérissent, il est immobile, mais tous ses membres sont dans la contraction du désespoir. L'excès de l'agitation de l'âme semble lui commander l'inaction du corps. La lampe s'éteint, le trépied qui la soutient se renverse. Tout rappelle la mort dans ce tableau. Il n'y a du vivant que la douleur. Je fus saisi en le voyant de cette pitié profonde que les fictions n'excitent jamais dans notre cœur sans un retour sur nous-mêmes. Et je contemplais cette image du malheur comme si, dangereusement menacé au milieu de la mer, j'avais vu de loin sur les flots les débris d'un naufrage. Je fus tiré de ma rêverie par l'arrivée du peintre qui me mena dans son atelier. Je vis le portrait de M. de Serbellane très frappant de ressemblance. Je demandai qu'on le portât dans ma voiture. Pendant qu'on l'arrangeait, je revins dans la galerie pour revoir encore le tableau de Marcus Sextus. En entrant, j'aperçois Léonce, placée comme je l'étais devant ce tableau, et paraissant émue comme moi de son expression. Sa présence m'ôta dans l'instant toute puissance de réflexion, et je m'avançai vers lui sans savoir ce que je faisais. Il leva les yeux sur moi et ne parut point surpris de me voir. Son âme était déjà ébranlée. Il me sembla que j'arrivais comme s'il pensait à moi, et que ses réflexions le préparaient à ma présence. « On plaint, me dit-il avec une sorte d'égarement, tout à fait extraordinaire, et presque sans me regarder. Oui, l'on plaint ce Romain infortuné, qui, revenant dans sa patrie, ne trouve plus que les restes inanimés de l'objet de sa tendresse. Eh bien, il serait mille fois plus malheureux s'il avait été trompé par la femme qu'il adorait, s'il ne pouvait plus l'estimer ni la regretter sans s'avilir. Quand la mort a frappé celle qu'on aime, la mort aussi peut réunir à elle. Notre âme, en s'échappant de notre sein, croit s'élancer vers une image adorée. Mais si son souvenir même est un souvenir d'amertume, si vous ne pouvez penser à elle sans un mélange d'indignation et d'amour, si vous souffrez au-dedans de vous par des sentiments toujours combattus, quel soulagement trouverez-vous dans la tombe? Ah, regardez-le encore, madame, cet homme malheureux qui va succomber sous le poids de ses peines. Il ne connaissait pas les douleurs les plus déchirantes. La nature inépuisable en souffrance l'avait encore épargné. « Il tient, s'écria Léonce avec l'accent le plus amer et en me saisissant le bras comme un furieux, il tient la main décolorée de la compagne de sa vie. Mais la main cruelle de celle qui lui fut chère n'a pas plongé dans son sein un fer empoisonné. » Effrayé de son mouvement, ne pouvant comprendre ses discours, je voulais lui répondre, l'interroger, me justifier. Un de mes gens apporta dans cet instant le portrait de M. de Serbellane, et le peintre qui le suivait lui dit, mettait ce tableau avec beaucoup de soin dans la voiture d'Albemarle. Léonce me quitte, s'approche du portrait, lève la toile qui le couvrait, la rejette avec violence, et, se retournant vers moi, avec l'expression de visage la plus insultante. « Pardonnez-moi, me dit-il, madame, les moments que je vous ai fait perdre. Je ne sais ce qui m'avait troublé. Mais ce qui est certain, ajouta-t-il, en pesant sur ce mot de toute la fierté de son âme, ce qui est certain, c'est que je suis calme à présent. » En prononçant ces mots, il enfonça son chapeau sur ses yeux et disparut. Je restai confondu de cette scène, immobile, à la place où Léonce m'avait laissé, et cherchant à deviner le sens des reproches sanglants qu'il m'avait adressés. Cependant, une idée me saisit. C'est que tout ce qu'il m'avait dit et l'impression qu'avait produite sur lui le portrait de M. de Serbellane pouvait appartenir à la jalousie. Cette pensée, peut-être douce, n'était encore que confuse dans ma tête lorsque Mme de Vernon arriva. Je ne l'attendais point. Elle avait été chez moi, ne me croyant pas encore partie, et voulant m'amener elle-même chez le peintre. Je lui exprimai, dans mon premier mouvement, toutes les idées qui m'agitaient, et je lui demandai vivement comment il serait possible que Léonce pût croire que j'aimais M. de Serbellane, lui qui devait savoir l'histoire de Mme d'Hervin. « Aussi, me répondit-elle, ne le croit-il pas. Mais vous n'avez pas d'idée de son caractère et de l'irritation qu'il éprouve sur tout ce qui vous regarde. » Cette réponse ne me satisfit pas, et je regardais Mme de Vernon avec étonnement. Je ne sais ce qui se passa dans son esprit alors, mais elle se tut pendant quelques instants, et reprit ensuite d'un ton ferme qui me fit rougir des pensées que j'avais eues et ne me prouva que combien elles étaient fausses. « Je pénètre, me dit Mme de Vernon, l'injuste défiance que vous avez contre moi. Je ne puis la supporter. Il faut que tout soit éclairci. Je forcerai Léonce, malgré les motifs qu'il pourrait m'opposer, à vous expliquer lui-même les raisons qui l'ont déterminé à ne pas s'unir à vous. Je fais peut-être une démarche contraire à mon devoir de mère en vous rapprochant du mari de ma fille, car certainement il ne pourra jamais vous voir sans émotion, quelle que soit son opinion sur votre conduite. Mais ce qu'il m'est impossible de tolérer, c'est votre défiance. Et pour qu'elle finisse, je vais écrire dès demain à Léonce que je le prie d'avoir un entretien avec vous. » Jugez, ma sœur, de l'effroi qu'un tel dessein dut me causer. Je conjurai Mme de Vernon d'y renoncer. Elle me quitta sans vouloir me dire ce qu'elle ferait. Elle était blessée. Je n'en pus obtenir un seul mot. Mais je pars à l'instant même pour passer 2 jours à Cernay chez Mme de Lébancey. Si Mme de Vernon, malgré mes instances, me ménage assez peu pour demander à Léonce de me voir, au moins, il saura que je n'ai point consenti à cette humiliation. Il ne me trouvera point chez moi, à Paris, ni à Bellerive. Lettre 9. Madame de Vernon à Léonce. Après tout ce que je vous ai dit, après tout ce qui s'est passé, votre agitation en parlant hier matin à Madame d'Albemarle l'a fort étonnée, mon cher Léonce. Elle voudrait ne point partir sans que vous fussiez en bonne amitié l'un avec l'autre. Elle pense avec raison qu'étant devenu proche parent par votre mariage avec ma fille, vous ne devez pas rester brouillé. Je désirerais donc que vous vous rencontrassiez tous les deux chez moi demain soir. Le voulez-vous ? Lettre 10. Réponse de Léonce à Madame de Vernon. Je n'ai rien à dire à Madame d'Albemarle, madame, qui peut motiver l'entretien que vous me demandez. Nous sommes et resterons parfaitement étrangers l'un à l'autre. L'amitié comme l'amour doivent être fondées sur l'estime. Et quand je suis forcé d'y renoncer, dispensez-moi de le déclarer. »
Thank you.